autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation pour nous interroger sur la transmission. Qu'ai-je reçu? Que vais-je transmettre? Quel fardeau ou quel trésor? Pourquoi ce geste de transmettre est-il essentiel dans nos vies, au fondement même de notre humanité? Mais que transmettons réellement? Comment et à qui? Pourquoi ça passe ou pas? Qu'est-ce qui nous échappe? Autant de questions qui se reposent aujourd'hui avec plus d'acuité encore dans notre monde en pleine mutation. Mais plutôt que de parler de crise, de la transmission, notre invitée, la philosophe Nathalie Sartoul-Ajut, a eu envie de nous en redonner le goût dans son dernier essai, le geste de transmettre, autour de la question « Pourquoi et comment transmettre ?» Bienvenue. Bonjour Nathalie Sartoul-Ajut.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes philosophe, rédactrice en chef adjointe de la revue Études, auteur de plusieurs ouvrages inspirants et notamment d'un éloge de la dette qui n'est pas sans rapport avec la transmission. On va y venir. Le geste de transmettre, c'est le titre de votre dernier essai, Nathalie, qui vient de paraître aux éditions Bayard dans la collection J'y crois. Vous vous y croyez, Nathalie Sartoul-Ajut, à la transmission. Même si c'est loin d'être simple, aujourd'hui où l'on parle de crise, de panne de la transmission. Vous citez en exergue le poète René Char et cette phrase énigmatique « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». C'est bien toute la question, justement.
Oui, cette phrase de René Char, en fait, je la trouve inspirante, peut-être parce que j'en comprenais pas le sens immédiatement, et peut-être dans sa dimension énigmatique, il me semblait qu'elle recélait tous les secrets de la transmission. Et au fond, un héritage sans testament, cette phrase de René Char, elle est souvent citée pour parler de la crise aujourd'hui de la transmission. Or, il me semble qu'elle dit la crise d'un certain modèle de la transmission, mais pas la crise du geste de transmettre. Je pense qu'elle nous dit aussi que la transmission est peut-être à réinventer.
Réinventer aujourd'hui.
Oui.
C'est pas à transmettre, c'est pas conserver en fait.
Voilà, c'est peut-être en tout cas la transmission qui est en crise, le modèle de transmission qui est en crise, c'est peut-être celui qui nous vient du sens patrimonial, hein, de la transmission, au sens où ce serait conserver un leg ad l'identique de génération en génération. Ou avec un testament qui nous dirait exactement comment il faut se comporter, quel sens il faut donner à nos gestes, où il faut reproduire la même chose que nos parents ont pu vivre et faire comme eux. Ça, ce sens-là, aujourd'hui, n'est plus acceptable dans une société contemporaine qui a valorisé la notion de l'individu, parce que ce sens-là de la transmission, au sens de conserver, au sens de reproduire, ben ne fait pas de place à la liberté individuelle, à la liberté finalement de celui qui reçoit un héritage et qui ne veut pas, si vous voulez, recevoir simplement un fardeau, hein, qui ne veut pas se contenter de reproduire. Là, il préfère au contraire refuser cet héritage, il préfère rompre avec cet héritage. Je pense qu'il faut la transmission qui est vivante et qui doit faire place à celui qui reçoit, doit lui laisser la liberté de se réapproprier l'héritage, de le transformer et de le réinventer.
De le réinventer, l'étymologie. Vous nous rappelez l'étymologie du mot transmettre, Nathalie Sartoul-Ajut?
J'ai voulu en tout cas dire que transmettre, l'étymologie, si vous voulez, la notion de transmission, elle est polysémique. Il y a plusieurs sens de la transmission. Ça peut être simplement la communication d'une information. On parlait tout à l'heure de la transmission de biens, mais on sent bien que c'est pas uniquement ce sens-là de la transmission qui nous intéresse, que la signification de la transmission est beaucoup plus riche que cela, et qu'il s'agit au fond de faire passer quelque chose de soi à quelqu'un d'autre.
Et là, c'était toute l'histoire de notre humanité.
Oui, hein. et je pense, on voit bien qu'au fond, le grand enjeu, c'est une relation, finalement, la transmission. C'est pour ça que c'est très difficile de faire, on ne peut pas faire, selon moi, de thèse, si vous voulez, sur la transmission, ni techniciser le geste de transmettre. C'est pas un geste technique dont on peut maîtriser la signification.
Voilà pourquoi les poètes peut-être en parlent le mieux. Autour de la question pourquoi et comment redonner le goût de transmettre, je vous propose d'écouter l'éclairage non pas d'un poète mais d'un paléontologue, Yves Coppens, célèbre paléontologue, qui vient justement de publier ses mémoires aux origines de l'homme, aux origines d'un homme. Il était récemment notre invité, on l'écoute.
Pour moi, la transmission, c'est quelque chose qui est inscrit dans les gènes de tous les êtres vivants, puisque à partir du moment où la mort existe, chaque être vivant a une certaine durée de vie, et cette durée de vie, elle ne peut être complétée que par une descendance, et la descendance ne peut survivre qu'avec information de la génération précédente. Donc l'apprentissage, l'éducation fait partie de la transmission, et cette transmission, on l'appelle innée pendant des centaines de millions d'années, moi je veux bien, et puis on l'appelle acquise depuis que l'homme existe, et cette transmission acquise qui est la nôtre est d'autant plus importante qu'on imagine mal un petit homme sans aucune éducation, c'est-à-dire qu'au moment de sa naissance, voilà, il est abandonné au milieu de la nature, il arrive à survivre parce qu'il se débrouille tant bien que mal, mais n'ayant pas d'apprentissage, il repart à zéro en quelque sorte. Donc vous vous rendez compte, pour une histoire humaine, l'importance, le poids, ce que représente la transmission, c'est essentiel. Tout d'un coup, au lieu, enfin, forcément, la culture, elle est cumulative, et si on n'a pas cette accumulation au sens propre, on est obligé de repartir au tout début de l'information. Et cette information, si on n'a pas l'autre pour vous de l'apprendre, on part véritablement pas très loin, quoi. Donc l'autre est essentiel.
L'autre essai est essentiel. Vous partagez évidemment cet avis du paléontologue Yves Coppens, Nathalie Sartoulaju.
Bah oui, parce que ce que nous rappelle Yves Coppens, c'est que et ce que nous dit la transmission, c'est qu'au fond, nous ne sommes, chaque individu n'est qu'un maillon finalement dans la chaîne des générations qui se succèdent.
Nos auditeurs à Cotonou, au Bénin, nous dit d'ailleurs que transmettre, c'est le moteur du progrès, et sinon l'humanité serait réduite à réinventer la roue tout le temps. Enfin, en gros, c'est ça aussi.
Oui, tout à fait. Et c'est en fait ce que nous dit la transmission aussi, c'est qu'on ne peut pas être à l'origine de notre humanité. On la reçoit des autres qui l'ont eux-mêmes reçue des générations précédentes et ainsi de suite. Et donc c'est ce trésor-là. Et néanmoins, c'est vrai que
c'est parfois un fardeau aussi.
Ça peut être un fardeau. Mmh. Et notamment peut-être qu'on a été à un moment donné prisonnier d'une signification un peu scientifique aussi, de la transmission, comme la transmission des gènes, avec tout ce que ça peut représenter dans l'imaginaire de déterminisme et de ce qui
pèse. Et d'immuable, alors que dans la transmission des gènes, il y a aussi l'environnement, il y a plein de choses
voilà,
aussi.
Voilà, maintenant, l'épigénétique a modifié finalement tout ça, et nous rappelle l'importance de l'environnement, du milieu, et que rien n'est jamais joué, et que justement, il y a... du coup, là, cela fait évoluer le sens de la transmission et lui enlève justement ce poids, hein, si vous voulez, ce poids du fardeau, ce poids des déterminismes.
On peut en faire autre chose.
Tout à fait.
Et vous dites aussi dans cet essai le geste de transmettre, Nathalie Sartoulaju, que transmettre, c'est pas seulement éduquer ou enseigner, c'est encore autre chose.
Oui, parce que la transmission, justement, je pense qu'elle suppose, une qualité relationnelle. Et elle suppose, elle est davantage à faire finalement de passeur que de maître. L'éducation nécessite des maîtres, mais la transmission nécessite des passeurs, des gens qui vont vous éveiller à vous-même en fait, qui vont jouer un petit peu ce rôle d'accoucheur. D'une conscience. Alors bien sûr, il y a des maîtres aussi qui sont de grands passeurs. Et puis la transmission, insister, hein, sur la transmission n'est pas simplement non plus la transmission d'un savoir ou la transmission de connaissances. C'est aussi tout un art de vivre.
Vous insistez sur, puisque vous parlez de passeurs, vous faites aussi en quelque sorte l'éloge de la passe. C'est pour ça que vous vous inspirez de la passe au rugby, hein, le sport de votre région d'enfance, hein, puisque aussi la transmission nous renvoie souvent aux origines et à notre enfance. Être passeur et encourager la passe comme au rugby.
Oui, j'aime bien cette métaphore en fait de la passe au rugby, parce que je trouve qu'elle nous introduit bien à ce processus dynamique qu'est la transmission. Justement, c'est un mouvement et elle nous rappelle aussi cet art, l'importance, si vous voulez, dans la transmission de la réception. C'est tout un art au rugby, c'est tout un art de savoir faire la passe et de savoir recevoir le ballon. Cet art difficile, si vous voulez, de la réception.
C'est-à-dire qu'il y a celui qui transmet, le passeur, et celui qui reçoit.
Et celui qui reçoit, et qui n'est pas dans une position non plus passive. Vous voyez, on quitte le champ là aussi des déterminismes. C'est important de savoir recevoir un héritage pour pouvoir le transmettre aussi à son tour. Donc j'aime bien en fait cette image dynamique de la passe.
Et ben autour de cette image dynamique de la passe au rugby et du fait de savoir recevoir aussi, je propose en clin d'œil à l'Ovalie, chère à votre cœur Nathalie, le rugby au cœur. 1000 voix pour l'Ovalie, c'est des sorties à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby en 2007, juste pour le plaisir de la passe.
Pour marquer de beaux essais, faut servir les ailiers pour déborder sur un pain sans regarder celui qui va vous tamponner. Arrêtez donc de la ramener, car c'est grâce à nous que vous brillez, c'est grâce à nos jolis crochets que vous serez valorisés. Arrêtez donc. Et comment veux-tu que je te fasse là? La 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 la. Et comment veux-tu que je te fasse là? Passe si tu n'es pas là.
CHEUR sur RFI, c'est pour vous, Nathalie Sartoulaju. Comment veux-tu que je te fasse la passe si tu n'es pas là? Tout est dit ou presque sur la transmission. Hein,
bah oui, écoutez, je suis très heureuse de vous donner cette occasion de passer cette chanson que j'imagine vous passez pas souvent.
C'est une première, on peut le dire, sur RFI. Autour de la question pourquoi et comment transmettre, qu'est-ce qu'on transmet ou pas? Nouvelle question pour vous, soulevée par Sarah Marniès de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Elle dirige le département pour la mobilisation de la recherche et de l'innovation.
La transmission des savoirs, des connaissances est quelque chose d'essentiel. Est-ce qu'il faut aussi transmettre des postures face à l'avenir?
Votre réponse, Nathalie Sartoulaju.
C'est vrai que la transmission n'est pas simplement affaire de transmettre des savoirs, comme elle le dit, mais aussi transmettre des postures, des comportements, des attitudes.
Des valeurs aussi, mais est-ce que c'est possible de les transmettre, justement?
Alors j'aime bien l'idée je préfère l'idée de posture et d'attitude que de valeur, qui est un mot un peu piégeant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire finalement, valeur. Parce que justement la posture, le comportement s'est incarné. Et c'est pour ça peut-être qu'une posture va marquer, qu'un comportement va marquer. Chaque fois finalement qu'un discours peut s'incarner dans une action, là, auprès des enfants... Par exemple, on s'aperçoit cette cohérence du discours et de l'acte. Quand ils peuvent constater cela, eh bien, ça passe.
C'est vrai, hein, on se rend compte que ce qui est passé à nos enfants, c'est souvent ce qu'on est bien plus que ce qu'on leur a dit.
Oui, parce qu'à ce moment-là, on joue le rôle d'un témoin. Vous voyez, et pas simplement d'un maître qui théorise ou qui transmet des savoirs ou qui transmet des connaissances. On peut témoigner. On témoigne de quelque chose. Et là, il y a justement ce qu'on appelle un passage à témoin. et là, ça passe à ce moment-là avec les enfants.
C'est pas vraiment du relais, tiens, je te donne et tu continues. C'est pas tout à fait ça, c'est autre chose.
Non, c'est témoigner de ce qui a eu du sens finalement pour nous.
De l'existence, et vraiment de choses aussi fondamentales que ça. Hein.
Oui, même si, encore une fois, on ne sait pas. Le processus de transmission est toujours incertain.
On ne sait pas ce qui va passer. On ne sait pas ce qui va si c'est passé.
Et c'est pour ça que le jeu de la passe, et au rugby notamment, si vous voulez, j'aime bien prendre l'image du rugby, parce que le ballon est ovale. Et donc, on ne sait jamais dans quel sens ça va rebondir. Hein, ce qui donne au processus, si vous voulez, de transmission et à l'art de la réception, qui en fait un art un peu dangereux et assez imprévisible. C'est ça, la transmission. C'est un processus incertain.
Qu'on ne maîtrise pas du tout.
Oui.
Et vous dites d'ailleurs, dans ce livre, vous avez un passage sur le seuil. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Vous dites en tant qu'enseignante que souvent c'est à la fin du cours qu'il se passe quelque chose sur le seuil, dans l'escalier, quand on s'y attend plus. C'est à ce moment-là, souvent, qu'il se passe quelque chose.
Mais oui, je me suis rendu compte en tant qu'enseignante, mais aussi en tant que parent, que c'était souvent dans ces espaces intermédiaires de médiation qu'il se passait quelque chose et qu'il se transmettait quelque chose. Et c'est là peut-être qu'on peut faire la différence entre la transmission et l'éducation. L'éducation nécessite des lieux clos, presque des mondes un peu qui servent de refuge, hein, à l'intérieur d'une maison ou à l'intérieur d'une salle de classe, un peu préservée de l'extérieur du monde, hein, pour pouvoir développer ses compétences, pour pouvoir faire mûrir, laisser mûrir les talents. Alors que la transmission nécessite des lieux plus ouverts.
Ouais,
j'ai remarqué en fait que c'était là, souvent dans les couloirs d'une salle de classe, hein, où vous savez, sur le perron, avant de se quitter. Et c'est à ce moment-là qu'on va se dire des choses que l'on ne se dirait pas ailleurs. Peut-être aussi parce que le parent ou le maître quitte la posture de celui qui sait. Et il laisse de la place, davantage de place, hein, à celui qui reçoit. Il est davantage à l'écoute. Et il peut s'adresser à l'autre en particulier. Vous voyez ? Et à ce moment-là, l'enfant est touché, peut-être parce qu'il a le sentiment réel que le parent ou le professeur lui parle à lui et rien qu'à lui.
Mais dans ce cas-là, Nathalie Sertoulagi, on y reviendra bien sûr en deuxième partie, mais on parle de panne ou de crise de la transmission et on se dit pourtant que si c'est comme ça, sur le seuil, dans des lieux pas clos, quand on quitte cette position de surplomb que peut se transmettre des choses, on est à un âge où la transmission, une autre forme de transition, vous disiez, est à réinventer, mais j'ai envie de dire, est tout à fait possible.
Elle est tout à fait possible. Et elle est en train de se réinventer. Je crois qu'aujourd'hui, on recherche des lieux de médiation, de nouveaux seuils. Il y en a sur les réseaux sociaux, il y en a ailleurs. Des lieux qui ne sont plus adossés à des institutions qui étaient les institutions de la transmission, l'église, l'école, la famille. Ce sont les institutions de la transmission. Mais adossées à ces institutions où il y a parfois des blocages aujourd'hui dans la transmission, s'inventent de nouveaux lieux pour transmettre, sur le seuil, et des lieux qui font davantage de place, peut-être aussi à la liberté et à l'inventivité de celui qui va recevoir.
À l'inventivité de part et d'autre, hein, de celui qui transmet et qui ne sait pas ce qu'il transmet et qui ne doit pas transmettre dans un but, mais pour que celui à qui l'on a transmis quelque chose puisse réinventer, en faire autre chose.
Oui, se le réapproprier et lui donner un sens propre, un sens singulier. Et ça, je crois que c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, on est en pleine effervescence pour repenser le sens de la transmission et de manière moins rigide.
Le sens de la transmission qui peut se faire dans... on pense toujours d'une génération à l'autre, mais qui peut se faire un peu dans tous les sens
C'est-à-dire, il y a la transmission intergénérationnelle.
Bien sûr.
Et cette transmission-là, elle est asymétrique. Elle suppose d'assumer aussi des différences de génération, des différences d'âge, des différences de compétences. Mais à côté de cette transmission-là, est en train de s'inventer aussi une transmission, je dirais, intra-générationnelle, entre les générations, entre pères, qui elle est beaucoup plus collaborative.
On va continuer de s'interroger sur cette nouvelle forme de transmission collaborative, sur le comment et le pourquoi. Dans 3 minutes, vous restez avec nous, bien sûr, Nathalie Sertoulagi. On se retrouve juste après le flash d'info autour du geste de transmettre. C'est le titre de votre dernier essai, paru aux éditions Bayard. À tout de suite.
Thank you. de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question de la transmission, comment redonner le goût de transmettre. Question ouverte par la philosophe Nathalie Sartoulaju, notre invitée dans son dernier essai, Le geste de transmettre, aux éditions Bayard. Comment transmettre ce que l'on a reçu ou pas et pourquoi ça nous dépasse. Une question que nous avons eu envie de poser à l'artiste contemporain Hervé Di Rosa, créateur du MIAM, le Musée international des arts modestes, qui était récemment notre invité.
Pendant longtemps, je ne me suis pas du tout posé cette question, mais je pense qu'avec l'âge, on se la pose. Et c'est vrai que quand j'ai créé le MIAM, le Musée international des arts modestes, c'est vrai qu'il y a une. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y avait cette idée de laboratoire, d'essayer de faire des choses que. Et de trouver et de faire voir des artistes et des œuvres que personne ne faisait voir. Mais il y avait aussi cette idée de transmettre aussi quelques valeurs, quelques œuvres, quelques artistes, quelques idées, quelques concepts auxquels je tiens. C'est la curiosité, l'ouverture d'esprit, être intéressé partout, ne pas suivre le mainstream, ne pas suivre la rue principale, essayer d'être à côté toujours. Même les choses principales, les créations à la mode dont on parle et tout ça, même ça, il faut essayer de le voir d'une autre manière. Pas le rejeter, mais essayer d'avoir un autre point de vue, essayer de développer des points de vue.
Nathalie Sartoulaju, vous voulez réagir à cet éclairage d'Hervé Di Rosa sur la curiosité, l'ouverture d'esprit et les chemins de traverse à transmettre aussi?
Ben oui, la transmission en fait aussi passe par des chemins de traverse. C'était un peu ce qu'on disait à travers la notion des seuils, hein, que la
le plus important se joue parfois sur le seuil,
ouais,
quand on s'y attend pas.
Dans des interstices et pas dans des chemins, pas dans des routes balisées en fait de la transmission institutionnelle, de la transmission. Donc ça, évidemment, ça fait tout de suite écho en moi. Et puis je suis sensible aussi quand un artiste parle de transmission finalement. Parce que à la fois il s'inscrit lui-même dans des traditions, quel que soit son art. S'il ne connaît pas l'histoire de son art, c'est difficile en fait de créer comme ça ex nihilo. Hein, lui-même, il s'inscrit dans une tradition. Et en même temps, ce que nous dit un artiste, c'est qu'il n'y a pas de transmission sans invention. Et là, je trouve qu'on touche finalement les deux ingrédients de la transmission, à la fois la mémoire et puis l'inventivité.
Et c'est ça qu'il faudrait pouvoir faire passer ou transmettre à nos enfants, ou si on est professeur, à ceux à qui on enseigne, aux autres. Vous dites aussi leur permettre de nourrir des rêves qui ne seront pas les nôtres.
Oui, parce que la tentation de l'éducateur, ça peut être celle terrible de vouloir fabriquer des clones. Hein, ou des enfants qui nous ressemblent.
Et justement, on a un peu tous cette tendance-là.
On a tous cette tendance-là à vouloir. Peut-être que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on cherche à se reproduire. C'est une manière pour nous de nous pérenniser, qu'il reste quelque chose de nous au travers de nos enfants. Bon, et là, ça peut être, si vous voulez, assez lourd, finalement, pour les générations. Il faut faire une place à leurs désirs et qui ne sont pas les nôtres et leur permettre de nourrir ces désirs-là.
Nourrir ces désirs-là pour nourrir le désir d'être en vie et de continuer. Parce qu'il y a ça aussi derrière la transmission. La figure du passeur, le fait que quand on transmet, ben, c'est qu'on est né et qu'on sait qu'on va mourir aussi. Et il y a vraiment ça dans la transmission.
Oui, il y a cette conscience, je crois, de la finitude, cette conscience, si vous voulez, de la mort, que l'on n'est pas éternel.
Et qui se pose d'ailleurs plus souvent à différents âges, à des seuils de la vie aussi, et quand on vieillit, évidemment.
Oui, et en même temps, je pense qu'il ne faut pas se laisser envahir trop par la mélancolie ou par la nostalgie, hein, si vous voulez, du fait que bon ben notre vie est courte et nous n'avons qu'une seule vie. Justement, ce qu'il y a dans la transmission, je pense qu'il y a cette espérance finalement d'une vie féconde, c'est-à-dire d'une vie qui a commencé avant nous et qui va se poursuivre après nous et qui est passée par nous. Il y a quelque chose quand même aussi voilà, qui est passé par nous et que nous avons transmis à nos enfants, qui vont en faire quelque chose d'autre et qui vont transmettre à d'autres.
À leur manière.
Donc il y a quelque chose, si vous voulez, de la fécondité de la vie qui se perpétue. Et sans ce goût-là, sans l'espérance de cette fécondité-là, on ne pourrait rien transmettre de bon. On ne peut rien transmettre, je crois, dans la dérision, si vous voulez, dans le cynisme. Et on ne peut rien transmettre non plus dans l'amertume et le ressentiment.
Le geste de transmettre, c'est comme ça que vous avez intitulé votre essai, le geste est important, et vous dites aussi que cette transmission, dont on ne sait pas trop comment et par où elle passe évidemment par des gestes, par des petits riens qui sont beaucoup, et notamment elle passe beaucoup en cuisine, et dans la cuisine, et avec des recettes de cuisine.
Oui, c'est vrai, je crois que là, je pense que... il y a deux piliers, si vous voulez, que l'on retrouve dans toutes les cultures populaires. Deux piliers fondamentaux de la transmission, c'est le fait de raconter des histoires et de cuisiner. Et comme par hasard, les deux se passent souvent autour de la table. Hein, et c'est, je dirais, la cuisine joue un rôle essentiel, même pour se raconter des histoires, parce que autour d'un bon plat, un bon plat permet de délier les langues, délier les palais, et souvent on se raconte des histoires, hein, où on commente ce qu'on mange, etc. Donc la cuisine, pour moi, joue un rôle essentiel dans la transmission. D'abord, il y a des recettes que l'on se transmet. De génération en génération.
C'est un goût d'enfance, parfois aussi.
Il y a un goût d'enfance, et puis c'est à la fois des traditions, mais des traditions qu'on revisite, hein, justement, vous voyez. Donc, avec toujours cette idée de, à la fois de mémoire et puis d'inventivité que l'on retrouve avec la cuisine, je pense, aujourd'hui. Ben voilà, même la haute gastronomie revisite des plats traditionnels comme la blanquette, comme la poule au pot. Et c'est pas un hasard, je pense, si aujourd'hui, les émissions de cuisine ont un tel succès, je dirais même que les grands chefs
deviennent très médiatiques.
Deviennent très médiatiques, c'est presque nos nouveaux maîtres de vie, quoi, hein, des maîtres de vie.
Vous pensez que c'est un lien avec cette forme de transmission.
Je pense que c'est en lien avec. Enfin, ça montre à quel point, si vous voulez, la transmission. Je pense que la cuisine. Aujourd'hui est devenu, fait partie de notre patrimoine culturel, alors surtout en France, et c'est un bien culturel, hein, vous voyez, la cuisine est un bien culturel, et je pense que comme on ne sait plus très bien quoi transmettre, ni comment transmettre aujourd'hui, mais nous avons le désir, un désir très fort de transmettre, et aujourd'hui ce désir-là s'exprime beaucoup par la cuisine.
En écho, je vous propose, Nathalie Sartoulaju, un petit extrait du Goût du Monde, l'émission gourmande de Clémence Donavide sur RFI, où l'on entendait justement au sujet de la transmission deux grands chefs s'exprimer, Cyril Lignac d'abord et Philippe Conticini ensuite.
On est cuisinier ou pâtissier, on a plusieurs phases. La première, c'est qu'on apprend. La deuxième, c'est qu'on entreprend. Et la troisième, c'est que l'on transmet. Donc ça n'a de sens que dans la transmission de notre métier.
Transmettre d'une manière générale toutes ces émotions et toutes ces sensations qui font vibrer au travers d'une chose, quoi, de la gourmandise.
Transmission, transmettre des émotions. Alors, ce sont des chefs qui parlent. Vous citez aussi le roman de Marine Diaye, La Chef, hein, Nathalie Sartoulaju, dans votre essai. La transmission par des grands chefs, mais aussi dans la cuisine, par, alors c'est souvent une affaire de femme, hein, par une mère ou une grand-mère.
Oui, et c'est un sens, si vous voulez, qui permet, ça incarne ce que transmettre veut dire. Parce qu'effectivement, je pense que la transmission, c'est, on transmet là des, vous voyez, il a parlé de saveurs, c'est quelque chose de sensible, et j'aime, en fait, cette manière très incarnée. Hein, si vous voulez, pour parler du geste de transmettre, hein, qui est la cuisine. Et tout de suite, effectivement, dans la cuisine, on est dans une affaire, alors pas simplement de femmes, puisqu'on voit aussi que de plus en plus les grands chefs aussi sont des hommes. Mais c'est vrai que pendant longtemps, de manière peut-être moins spectaculaire. En fait, ce que l'on voit aussi avec les grands chefs aujourd'hui, et puis les émissions comme ça, culinaires, Top Chef et compagnie, c'est que c'est devenu une transmission un peu... à grand spectacle. Alors que finalement, moi j'aime bien les secrets de cuisine, ce qui nous renvoie aux secrets de transmission. La cuisine supposait une arrière-cuisine. Et le cuisinier ou la cuisinière, on voit ça dans le roman de Marine Diaye, mais aussi par exemple dans ce film que j'aime beaucoup, Le Festin de Babette. La cuisinière, celle qui va régaler les autres, elle reste en retrait, elle ne se met pas en avant. Et c'est peut-être ça le secret aussi du don. dans la transmission. J'aime bien cette discrétion, si vous voulez, de celui qui donne. Et peut-être on ne donne jamais autant que quand on se met comme ça en retrait, quand on reste dans l'arrière-cuisine pour régaler les autres.
J'ai envie de citer ce que le poète que vous citez également, René Char, pour qu'un héritage soit réellement grand, il faut que la main du défunt ne se voie pas.
Oui, c'est un art de la discrétion. C'est une manière effectivement de se retirer, de se mettre en retrait pour que l'autre puisse vivre. Et il y a de ça dans la transmission de génération en génération. Pour qu'une génération ne pèse pas sur l'autre, il faut qu'elle puisse se retirer. Je pense que la crise de la transmission que nous connaissons aujourd'hui, la panne de la transmission, c'est lié à ce blocage dans la succession des générations.
Il y en a qui ne veulent pas se retirer.
Il y en a qui ne veulent pas
se
retirer.
Les plus âgés ne veulent plus se retirer.
Ils ne veulent pas se retirer.
Ils veulent rester jeunes.
Ils veulent rester jeunes.
Et rester, occuper la place.
Ils veulent occuper la place, ou pour réutiliser la métaphore du rugby qu'on utilisait tout à l'heure, ils veulent jouer perso, quoi. Ils veulent garder le ballon pour eux, au lieu d'être dans la passe à la génération qui suit.
Et ça, c'est
parce que ça suppose à un moment donné, c'est une question voilà qui se repose vraiment aujourd'hui de manière cruciale et qui nous permet de nous prendre conscience que pour transmettre à d'autres, il faut accepter à un moment donné de lâcher prise, de se retirer pour faire de la place aux autres.
Faire de la place aux autres, faire de la place à ses enfants et leur laisser advenir
ce qui suppose à un moment donné d'accepter de ne plus contrôler, de lâcher un peu du pouvoir, hein, si vous voulez, et aussi pour soi-même de consentir finalement, de consentir, c'est pas facile, parce que ça suppose de consentir à vieillir, ça veut dire de consentir finalement à sa propre mort. Hein, et souvent, les gens qui ne veulent pas transmettre et qui veulent à tout prix rester en place, occuper toute la place et ne pas faire la passe à d'autres, c'est parce qu'ils ne veulent pas mourir.
C'est un chemin de vie hein, que de réfléchir aux gestes de transmettre.
Tout à fait. Ouais.
Vous avez eu envie d'écouter Charles Aznavour sur RFI. Le titre, c'est « À ma fille ».
Je sais qu'un jour viendra, car la vie le commande, ce jour que j'appréhende où tu nous quitteras. Je sais qu'un jour viendra où triste et solitaire, en soutenant ta mère et entraînant mes pas, je rentrerai chez nous, dans un chez nous désert. Je rentrerai chez nous où tu ne seras pas. Toi, tu ne verras rien des choses de mon cœur. Tes yeux seront crevés de joie et de bonheur. Et j'aurai un rictus que tu ne connais pas, qui semble être un sourire ému, mais ne l'est pas. En taisant ma douleur à ton bras fièrement, je guiderai tes pas, quoi que j'en pense ou dise, dans le recueillement d'une paisible église, pour aller te donner à l'homme de ton choix, qui te dévêtira du nom qui est le nôtre, pour t'en donner un autre que je ne connais pas. Je sais qu'un jour viendra, tu atteindras cet âge où l'on force les cages ayant trouvé sa voie. Je sais qu'un jour viendra, l'âge t'aura fleuri et l'aube de ta vie ailleurs se lèvera. Et seul avec ta mère, le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver, nous aurons un peu froid. Et lui qui ne sait rien du mal qu'on s'est donné, lui qui n'aura rien fait pour mûrir des années, lui qui viendra voler ce dont j'ai le plus peur, notre part de passé, notre part de bonheur. cet étranger sans nom, sans visage. Oh combien je le hais. Et pourtant, s'il doit te rendre heureuse, je n'aurai envers lui nulle pensée haineuse. Mais je lui offrirai mon cœur avec ta main. Je ferai tout cela en sachant que tu l'aimes, simplement car je t'aime le jour où il viendra.
À ma fille, Charles Aznavour sur RFI, pourquoi ce choix, Nathalie Sartoulageux?
Je trouve cette chanson magnifique. Et puis elle nous fait prendre conscience en fait qu'il y a dans toute transmission un arrachement, c'est-à-dire cet enfant qu'on a porté. Alors là, c'est quand on est mère, là c'est un père qui laisse partir sa fille, mais cet enfant qu'on a élevé, qu'on a vu grandir, qu'on a chéri. À un moment donné, il faut le laisser partir. Et je pense qu'effectivement, à un moment donné, transmettre, c'est laisser l'autre faire une place pour que l'autre puisse prendre son envol. Et il faut je pense qu'il faut, il y a à la fois une part de, moi je sais que j'ai réalisé cela quand je suis devenue mère à mon tour. En revanche, je me souvenais de ma jubilation à 18 ans quand j'ai quitté le toit familial, quand je suis partie de chez mes parents. Et je revois, j'ai encore en tête l'image sur le quai de la gare de mon père qui m'accompagne au train, et puis moi je pars à la capitale, je m'en vais et je m'en vais, et je me souviens du contraste entre la nostalgie qui était la sienne, hein, d'une période qui se terminait en fait, et de la jubilation qui était la mienne. Et j'ai revécu ça à mon tour. Maintenant c'est mes enfants qui sont sur le seuil, qui sont en train de partir, et je prends conscience de ça, voilà, de ce cycle-là. Il faut laisser partir, et je pense que ce qui nous permet de surmonter finalement cet arrachement, c'est la jubilation aussi de l'enfant qui part vers sa vie, vers la vie qui est la sienne.
Parce qu'on se souvient de sa propre jubilation et qu'on a eu envie de nourrir une jubilation pareille. De faire justement des enfants ou des adolescents. Vous dites qu'aujourd'hui ils sont parfois paralysés et surendettés. Vous qui avez travaillé sur la dette, qui avez fait l'éloge de la dette, mais ne pas être la transmission, c'est pas être trop endetté, c'est par rapport à ceux qui nous ont transmis ou à ceux qu'on nous a transmis.
C'est-à-dire, il y a des dans la transmission, c'est vrai qu'il y a des alors la dette matérialise, si vous voulez, le poids aujourd'hui de transmission, et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la transmission qui peut être pesant, tout ce qu'on n'a pas choisi finalement et que l'on doit porter, je veux dire toutes ces transmissions inconscientes, les névroses, les traumatismes familiaux qui se transmettent comme ça de génération en génération.
Est-ce qu'on ne voudrait surtout pas transmettre nous-mêmes ?
Oui, et souvent d'ailleurs la transmission est un peu entachée de ce négatif et perçue à cause de ça. C'est pour ça souvent que les gens ne veulent pas transmettre ou ont peur de transmettre parce qu'ils ont peur de transmettre que du négatif. Et ils ne voient pas aussi cette jubilation.
Et qu'on transmet de toute façon, ça nous échappe et qu'on transmet et du positif et du négatif.
Voilà.
Et puis aujourd'hui, on l'a dit au début de cette émission également, nous sommes dans une période où on parle beaucoup de panne et de crise de la transmission. À ce sujet, je propose un nouvel éclairage sur cette question de la transmission. C'est celui de Pierre Lagrange, sociologue des sciences.
Transmettre, c'est traduire. C'est-à-dire que dès qu'on passe quelque chose, ceux qui le reçoivent le traduisent. On est dans un monde où, sans transmission et sans traduction, notre société n'existe pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans les décennies récentes, nos sociétés se sont à nouveau énormément transformées. Et la transmission à l'ère d'Internet, notamment, c'est très différent de ce qu'il y avait. Enfin, il y a eu une série de révolutions dans la transmission. Je dirais qu'il y a eu un premier moment avec l'invention du langage. Mais il y a un moment qui est beaucoup plus documenté, qui est l'invention de l'écriture. Où là, on voit que les premières formes de pensée scientifique émergent à Babylone. Ensuite, il y a un deuxième moment clé qui est l'invention de l'imprimerie. Où là, c'est de l'écrit, mais avec une capacité de diffusion démultipliée qui fait que c'est pas juste une question d'échelle. Ça va transformer la nature de tout un tas de choses et ça permet justement l'émergence des sciences expérimentales. la transformation, la révolution astronomique de Galilée, Copernic et tout, c'est l'imprimerie qui l'a rendu possible, c'est pas le ciel. Et aujourd'hui, avec Internet, avec les sciences expérimentales, la big science depuis le début du XXe siècle, tout ça, on est dans une époque aussi de révolution qui est semblable à l'imprimerie et à l'invention de l'écriture il y a 6000 ans. Là, ça invite à repenser complètement la notion de transmission dans le monde qui est le nôtre. Alors c'est vrai qu'on a tendance à s'en inquiéter, et j'aime beaucoup l'attitude de Michel Serres, qui est avant de s'inquiéter du monde qui vient, de le mettre en perspective sur des siècles et de montrer qu'en fait, toutes les potentialités et les ouvertures que ça offre. Donc il y a des choses à gagner dans la notion, l'idée de transmission à une époque comme la nôtre.
Repenser complètement l'idée, la notion de transmission, vous partagez, j'imagine, le point de vue de Pierre Lagrange, Nathalie Sartoulaju.
Oui, j'aime bien l'image qu'il choisit, celle du traducteur, quand il dit que transmettre, c'est traduire. Parce que j'aime bien ça, parce que le traducteur, justement, permet de comprendre ce rôle du passeur. Le traducteur, c'est un passeur. C'est celui qui permet de passer d'une langue à une autre, d'une culture à une autre. Le traducteur a justement ce sens du jeu de la passe dont on parlait, voyez, tout à l'heure. Alors ce n'est pas un créateur au sens d'un maître, si vous voulez, à penser, mais c'est vraiment un médiateur. Et aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Pierre Lagrange, la transmission, on est en train d'inventer de nouveaux milieux, de nouveaux lieux de transmission, et Internet, effectivement, est un de ces...
Même si on dit qu'on perd un peu la mémoire aujourd'hui, transmettre, c'est aussi se souvenir pour transformer, mais il y a cette crainte là aujourd'hui.
On perd la mémoire et en même temps, Internet, je dirais, est un lieu d'archives qui laisse beaucoup de traces. Donc, si vous voulez, je pense qu'on est... Il y a un jeu, si vous voulez, une dialectique heureuse qui se met en place aujourd'hui avec de nouveaux... Je pense qu'il ne faut pas faire jouer les modèles de transmission les uns contre les autres, avec le modèle de l'écrit et puis le modèle d'Internet. Aujourd'hui, il y a des... milieu, il y a de nouveaux moyens de transmission qui sont en train de se créer, mais qui sont complètement hybrides.
Voilà. Il y a de la circulation.
Il y a de la circulation. Et je pense qu'il ne faut pas opposer ces modèles de transmission. Il ne faut pas opposer le modèle intergénérationnel du modèle intragénérationnel. Il ne faut pas opposer l'écrit, si vous voulez, au net. Il y a des nouveaux modèles de transmission hybride qui sont en train de s'inventer.
Qu'est-ce qui vous semble, vous, Nathalie Sartoulaju, le plus important à transmettre, puisqu'au fond il s'agit de transmettre notre humanité, ce qu'on sait, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, d'être passeur. Vous voudriez être passeur de quoi sur cette terre, Nathalie Sartoulaju?
Peut-être une certaine ferveur, c'est-à-dire un certain goût de vivre. Je pense que c'est ça. Après, chacun lui donne le sens et le contenu qu'il souhaite. Mais je crois qu'il y a de transmission, si vous voulez, que dans la ferveur, que dans la passion, que dans le goût pour quelque chose. Tout ce que l'on a entendu dans cette émission, que ce soit les scientifiques, que ce soit les cuisiniers
ou les rugbyman,
ils témoignent en fait d'un certain goût de vivre et que la vie est féconde, hein. Et c'est peut-être ça qu'il n'y a de transmission qu'en ce sens-là.
Donc c'est ça que il faudrait, qu'on pourrait ou qu'on peut essayer de distiller, alors en nous-mêmes d'abord, j'imagine, pour que ce soit incarné, on l'a bien dit, mais aux générations à venir, sur cette terre où on ne sait pas du tout, ce sera à eux aussi d'inventer, de réinventer autre chose.
Oui, mais ils ne le feront pas sans cette espérance-là. Voilà. Je crois que c'est la pire des choses, si vous voulez, c'est que quand on s'enferme dans un discours qui est décliniste ou qui est apocalyptique, c'est comme si on voulait enlever leurs rêves et leur capacité d'invention à toute une génération. Et là, je trouve, c'est là que c'est néfaste.
Quel est le plus beau geste de transmission que vous-même ayez reçu, Nathalie Sartoulaju?
La confiance. La confiance qu'un professeur de philosophie m'a fait en terminale. C'est cette confiance, je pense que pour ça peut marcher. Dans beaucoup de... Je pense que c'est quelqu'un qui nous fait confiance. Et cette relation de confiance, nous donne, nous permet peut-être à un moment donné de déployer nos talents ou nos capacités, quelles qu'elles soient.
Qui nous permet de, qui nous fait passer justement et qui nous permet d'avoir envie de continuer à faire passer aussi. Hein. Merci infiniment Nathalie Sartoulagi d'être venue en direct partager donc le geste de transmettre. C'est le titre de ce petit essai très rapide à lire mais très inspirant et lumineux qui vient de paraître aux éditions Bayard. Et puis vous revenez quand vous voulez Nathalie Sartoulagi.
Merci.
Autour de la question, @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter et à nous podcaster, à nous télécharger sur le site de RFI et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, amis auditeurs, avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, en compagnie du professeur Stéphane Mallat, nommé cette année au Collège de France, titulaire d'une nouvelle chaire sur les sciences des données ou comment faire face au vertige de la grande dimension. Merci de votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, un prochain journal dans 30 secondes.